Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir, première émission de la semaine et au menu ce soir, transition énergétique, intelligence artificielle mais pas que, à travers les rencontres de la filière qui vont avoir lieu là à la fin de la semaine à Lyon. Tous les détails dans un instant, mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute pour le sud-ouest. Mesdames, messieurs, nous retrouvons Rémi Acari. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Je suis là. Mais oui. Je suis très content d'être là.
Voilà, en plus un sujet où je vais vous faire intervenir évidemment ce soir, car vous faites partie de la jeunesse de cette émission et de la radio.
Vous avez certainement... Vous voulez dire que c'est partie des poids lourds de l'émission.
Vous passez dans un tunnel, Rémi, c'est un tunnel là, Rémi. Voilà, je suis désolé. tout de suite, pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, c'est une autre jeunesse avec nous, c'est Léo Labica. Bonsoir Léo.
Bonsoir Sébastien, Rémi, bonsoir à toutes et tous.
Voilà, je suis sûr que tous les deux vous avez des avis sur la question de la transition énergétique, ça sera intéressant de les entendre durant cette émission. Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 octobre 2024. Bienvenue à toutes et tous, que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Jusqu'à 23h pour vous, avec vous, mais aussi avec toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
La semaine dernière, nous avons eu un thème qui nous a ramené dans le passé. Ce soir, nous allons nous tourner vers l'avenir. Les rencontres de la filière par Solutrans, organisées une année sur deux en alternance avec le grand salon lyonnais du TRM et qui se veut aussi international. Cette année, ces rencontres auront lieu le jeudi 10 octobre. Ce jeudi, nous allons revenir sur les principaux thèmes de cette année, comme par exemple, à nouveau la transition énergétique, électrique, hydrogène, mais nous verrons que finalement, le thermique n'a pas dit son dernier mot. Et puis l'intelligence artificielle, entre ses balbutiements aussi, comment? Vous l'entendrez, dans le domaine du camion et plus généralement dans la vie, est-ce que l'intelligence artificielle vous effraie? Et pourquoi faut-il vraiment l'intégrer dans vos cabines selon vous? Quant à la transition énergétique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait trop, ou pas encore assez selon vous? J'attends vos réactions. Ouvrez le débat avec nos invités quand vous n'êtes pas en train de conduire. Connectez-vous sur radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et puis selon vous, le transport routier de marchandises est-il prêt pour la transition énergétique? Sondage à retrouver également à l'arrêt sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite pour poursuivre un débat qui ne fait que commencer. Allez, pour démarrer cette émission, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut mettre comme chanson. J'ai trouvé celle-ci du groupe Cake. Vous savez, ils avaient repris Peur Up, c'est celle qu'on connaît le plus. Et ils avaient fait aussi une chanson début des années 2000 qui s'appelle Carbone Monoxyde. Alors je peux vous dire que dans cette chanson, personne n'est épargné, tout le monde en prend plein la tête. Voilà, donc là, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde en prend pour son grade dans ce titre de Cake Carbon Monoxide. Too much carbon monoxide. Évidemment, j'ai donné le titre avec mon accent très franglais, parce que moi et l'anglais, ça fait 52. Donc c'est carbone monoxide ou monoxyde. J'arriverai pas à le dire de toute façon, comme ça c'est fait. Vous connaissez
monoxide,
ce titre?
Monoxide, je dirais.
Monoxide. Vous connaissez ce titre, mon cher Rémi?
Pas du tout. Autant non. Je connaissais la reprise d'I Will Survive et de Peraps, mais celle-là, non.
Et début des années 2000, Léo, vous connaissiez ce titre ou pas?
Absolument pas, non.
Absolument pas. C'est une découverte. Et comme je le disais, il n'y a pas de jaloux, tout le monde en a pris pour son grade dans ce titre du groupe Cake. Un message reçu de Jean-Philippe qui nous donne de ses nouvelles, très heureux de le lire ce soir. Bonsoir l'équipe, petit bonjour de la région paloise sur le retour de Bordeaux en vous écoutant et bonne route à tous les routiers et les collègues taxis qui roulent encore. Jean-Philippe, si tu es toujours à l'arrêt pour nous écrire, est-ce que les taxis aussi franchissent le pas de la transition énergétique? Ça pourrait être intéressant de le savoir. Est-ce que vous êtes obligé de passer à l'électrique, à l'hydrogène, au gaz, aux pédales aussi, je sais pas. Voilà. je me pose toutes les questions ce soir, moi, sur la transition énergétique. Pour m'écrire également, radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et dites-nous, tiens, si l'intelligence artificielle vous effraie ou pas, et pourquoi. La transition énergétique est sur toutes les lèvres, mais semble pourtant marquer le pas, notamment sur la longue distance. Qu'en pensez-vous? Je le rappelle, c'est vous qui faites votre émission.
Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité.
Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Patrick Cholleton, président de Solutrans, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous allez nous présenter dans quelques instants le programme et les objectifs de ces rencontres de la filière qui vont se dérouler à Lyon le 10 octobre prochain. Mais d'abord, rappelez-nous pourquoi la création de cette journée de rencontres.
Alors l'idée m'est venue, j'allais dire, à la fin du salon de 2017 de Solutrans qui montait véritablement en puissance. Et je me suis dit qu'avec une actualité galopante, il n'était pas possible d'attendre 2 ans l'édition suivante. Donc j'ai décidé de créer les rencontres de la filière entre 2 éditions. Ces rencontres de la filière, c'est une sorte de Davos en quelque sorte, avec des représentants des constructeurs européens, des énergéticiens, des équipementiers, des politiques, des industriels, autour de table ronde pour discuter des sujets d'actualité les plus brûlants, pour faire en sorte que les transporteurs, par exemple, puissent savoir demain quelle énergie choisir pour leur achat de véhicules.
Oui. L'électrique, qui est aussi un sujet électrique, on peut le dire également comme ça, mais avant d'y revenir, quel est donc le programme de cette journée du 10 octobre, c'est jeudi, hein, et avec quels objectifs cette année?
Alors l'objectif aujourd'hui, enfin pour cette année, c'est de dire, on met toujours en avant une énergie plutôt qu'une autre pour mieux la faire connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à Solutrans, on n'est pas là pour dire choisissez telle ou telle énergie. Et on a choisi l'hydrogène cette année pour sa montée en puissance. Donc le programme, comme vous me le demandez, le matin, il y aura pour certains privilégiés la visite de Symbio. Symbio est une usine, une méga-factory qui se trouve à côté de Lyon, à Saint-Fons exactement, qui est sur 20 000 mètres carrés, qui emploie pratiquement 1 000 salariés, dont 500 chercheurs, pardon, et qui est spécialisée dans la production de piles à combustible pour l'hydrogène. Donc on va faire découvrir à 50 privilégiés ce qu'est cette société, et on met en avant cette société qui est purement française, hein, qui est la première en Europe, et ça c'est la première partie donc de cette journée du 10 octobre. Et l'après-midi, donc on aura un programme avec des tables rondes, une table ronde sur l'hydrogène, pour définir son potentiel et savoir si c'est un défi d'une véritable révolution verte ou pas. Ensuite, on aura, j'allais dire, une sorte de table ronde poil à gratter, on va parler du moteur thermique, parce que pour nous, le moteur thermique, il n'est pas mort. Ensuite, quelque chose qui vous intéresse, on aura un grand témoin qui viendra parler de l'intelligence artificielle.
Oui,
ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est un allié, mais qui est à garder sous surveillance. Et puis, on aura une dernière table ronde qui va intéresser l'ensemble de la filière. C'est sur la nouvelle réglementation au niveau des énergies et de tous les arrêtés. On aura la Commission européenne qui sera avec nous et on pourra lui poser toutes sortes de questions.
Eh ben, restez bien en ligne avec moi parce que on va continuer de détailler tout cela et cette journée de ce 10 octobre. En plus, il y a de l'actualité qui est tombée dans le courant de l'après-midi, notamment autour des aides et feux. Je pense que vous aurez certainement une réaction également. Tout cela, ça sera donc après l'infotrafic. Je rappelle juste notre sondage de ce soir. Vous tous qui nous écoutez, selon vous, le transport routier de marchandises est-il prêt pour la transition énergétique? C'est notre sondage à retrouver donc à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympa, ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus via la bulle bleue Messenger et nous poserons aussi cette question à tous nos invités ce soir. Et je ferai déjà réagir aussi Patrick Cholleton sur les premiers témoignages qui me sont parvenus. Mais d'abord, c'est le trafic. Nous sommes donc toujours avec Patrick Cholleton, président de Solutrans, qui organise les rencontres de la filière, comprenez du TRM, transport routier de marchandises. Alors Patrick, pas moins de 400 invités qui viennent de France et d'ailleurs, on imagine des profils totalement différents.
Alors tout à fait. Alors il vient de, on va dire, de toute l'Europe, hein, voire même de l'Asie, puisqu'on aura le représentant hydrogène de Hyundai qui sera là, et ça c'est très important. Mais généralement, tous les intervenants viennent de l'Europe, et ce sont généralement des gens très, des personnes très spécialisées qui savent de quoi ils parlent. Le but justement de ces tables rondes, c'est de mettre en avant toutes les difficultés que peuvent avoir les acheteurs potentiels, les transporteurs, par exemple les loueurs, pour acheter un véhicule aujourd'hui.
Alors, nous les détaillerons tout à l'heure avec nos prochains invités, mais vous nous les avez déjà évoqués un petit peu avant 21h15, hein, avec deux sujets qui ressortent notamment cette année, l'hydrogène, l'intelligence artificielle, mais pas que. La question qui nous vient, comment vous choisissez les sujets de ces tables rondes? C'est à partir d'un sondage, d'une actualité? Comment ça se passe?
Oh, ça se passe qu'on connaît véritablement bien tous les acteurs du marché, principalement tous les constructeurs VI et VUL. Donc on discute avec eux, et puis on sent un petit peu ce qui est dans les tuyaux, ce qui est dans les bureaux d'études, et on s'aperçoit en fin de compte que les sujets que l'on choisit, on les choisit également souvent avec les pouvoirs publics, le ministère des Transports.
D'accord.
Qu'est-ce qui va se faire dans les années à venir? On ne fait pas de la prospective à 10 ans à Solutrans, on fait de la prospective à 2 ans.
Oui.
Ça suffit amplement parce qu'il y a tellement d'actualité aujourd'hui. Donc, le cas de l'hydrogène, on avait choisi il y a 2 ans, on avait choisi l'électrique.
Oui.
On s'est aperçu que tous les acteurs potentiels à Solutrans avaient des véhicules électriques. Et là, on pointe du nez qu'à Solutrans, l'année prochaine, justement en 2025, il y aura des véhicules hydrogène.
Alors, moi, je vais vous faire déjà réagir. Alors, j'ai Yannick qui réagit sur ce sujet ce soir. Il nous dit, Demat, Seba Max, tes copilotes Max et la Max Patrouille. Pour le thème de ce soir, tu connais mon avis plutôt tranché sur le sujet. Alors, pour l'intelligence artificielle, si c'est pour remplacer des chauffeurs, c'est non. Je suis contre. Il y a déjà assez de gens qui... alors, je peux pas dire le mot là qui dit, mais qui font rien. En France, pas la peine d'en rajouter. Pour l'hydrogène, en gros, ça pourrait augmenter le chômage selon lui. Pour l'hydrogène, rouler avec ça dans le dos, jamais. Pour l'électrique, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'en France on a décidé de passer à l'électrique ou à l'hydrogène qu'on va sauver la planète. Quand je pense que certaines grandes surfaces obligent les transporteurs à rouler à l'électrique ou au gaz pour le respect de la planète, ça me fait doucement rigoler, nous dit-il, quand tu sais qu'elles importent des produits qui viennent de l'autre bout du monde avec des gros paquebots qui polluent bien plus que toute la population française en une année. Sur ce, les bons chiffres à tous, la bonne route, la prudence, Kenavo. Ça va être difficile quand même de convaincre tout le monde, Patrick Cholleton, que la transition énergétique, ça va être nécessaire, mais à fixer peut-être une ou deux énergies, ça va être peut-être compliqué de convaincre en premier lieu les conductrices et conducteurs routiers.
Je crois qu'on n'a pas le choix, je crois que la profession, la filière dans son ensemble n'a pas le choix. Il ne faut pas oublier que ce sont des objectifs qui depuis des années sont fixés par la Commission européenne. Ouais.
Et qui change ça tous les 6 mois. Je schématise.
Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des variantes, mais l'objectif final reste toujours le même. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à 2030 à réduire certaines, tout ce qui est CO2, on aura des gros problèmes financiers chez les constructeurs parce qu'il y aura des amendes à payer. Donc là, on est devant un fait. Soit les constructeurs décident de payer ces amendes-là qui vont se monter en milliards, soit, ce que je dis souvent, ces milliards, utilisons-les justement dans la recherche pour faire en sorte de trouver des nouvelles énergies qui permettent d'acheter moins cher. Mais encore une fois, je suis d'accord avec l'intervenant de chez vous, là. On ne va pas mettre tout à l'électrique, on ne va pas mettre tout à l'hydrogène non plus. Nous, on est pour un mixte énergétique. Mmh. C'est-à-dire qu'il le faut, on n'a pas le choix non plus. Donc, alors, l'électrique... Pour l'urbain, le périurbain, les petites distances, on est tout à fait d'accord. L'hydrogène peut être valable demain sur les moyennes et les longues distances également, comme le gaz l'est aujourd'hui. Et puis n'oublions pas une chose aujourd'hui également, c'est que le moteur thermique est loin d'être mort. Et qu'avec le moteur thermique, on peut avoir de multiples utilisations, y compris au niveau de l'hydrogène à combustion. Donc ne brûlons pas les étapes, c'est le cas de le dire. Il y aura de l'électrique, il y aura de l'hydrogène, il y aura encore du thermique. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est l'utilisateur final. C'est l'acheteur final qui va décider de quelle énergie il utilisera.
Et finalement, dont il a besoin.
Mais dont il a besoin, et puis est-ce qu'il aura les moyens de l'acheter, ce véhicule électrique. Je rappelle qu'un véhicule électrique aujourd'hui coûte 150 à 200 000 euros de plus qu'un véhicule thermique. Je rappelle que 90% des entreprises en France sont des TPE, des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de mettre des coûts pareils dans cet investissement.
D'ailleurs, on a appris les mauvaises nouvelles de la fin d'été avec la hausse inédite des faillites des PME dans le transport, et d'ailleurs on y consacrera une émission dans 15 jours. Et Guillaume qui nous écrit avec un avis différent. Guillaume, bonsoir Sébastien, Thibault et Léo. J'ai voté oui au sondage, mais pas pour l'électrique. Alors ça, c'est comme Yannick, mais il nous dit aux 24 heures du Mans, j'ai vu un Renault qui roule à l'hydrogène, mais aussi les camions sur le circuit qui tournent avec des biocarburants à base de plastique recyclé, il me semble. Oui, tout à fait. Bonne soirée à tous et la bonne route. Oui, on n'en a pas encore parlé ensemble, Patrick Cholleton, mais il y a aussi cette histoire de biocarburants.
Ah ben les biocarburants, de toute façon, c'est toujours d'actualité, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que quand je parle de mix énergétique, on a une palette suffisamment grande, j'allais dire, pour pouvoir choisir. Et puis, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas, encore une fois, il faut bien se mettre dans la tête, qu'on ne peut pas passer en 2 ans au tout électrique ou au tout hydrogène, c'est pas possible. Hein, je crois qu'il faut être réaliste. Et puis, il faut se mettre à la place de nos constructeurs aujourd'hui, qui ont besoin également d'avoir un certain volume pour lancer les premières productions dans l'électrique. Et ce sont ces premières productions qui permettront à un moment donné de baisser les coûts de production et d'offrir de meilleurs prix à la vente.
Alors, vous nous l'avez dit, vous travaillez déjà sur le prochain salon Solutrans, même si les rencontres de la filière sont dans 3 jours. Et on peut le rappeler déjà, c'est important aussi que durant ce salon, il y a la fameuse journée des conducteurs, c'est en général le samedi sur Solutrans.
Ah oui, tout à fait, et puis on va pas y déroger, hein, puisque le conducteur, c'est celui qui nous fait vivre aussi en même temps, hein. C'est celui qui dynamise la filière, donc on veut surtout pas s'en séparer, et puis tous les constructeurs font du samedi une journée conviviale avec les chauffeurs et leurs familles.
Mmh. Il y a un quart d'heure, il y a 15 minutes avant le début de l'émission, je tombe sur une dépêche AFP qui m'a un peu surprise, alors peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais vous savez, il y a les fameuses ZFE, les zones à faible émission, et qui concerne particulièrement les critères 4, 5. À partir de janvier, les critères 3 devaient être concernés aussi par une interdiction de circuler à Paris. Et dans sa proche couronne, au sein même de la 86, hein, qui fait le tour de la région parisienne. Et là, on apprend que potentiellement, il va y avoir des dérogations sur quelques journées de l'année avec un pass, qu'ils appelleraient ça pass ZFE 24 heures. Alors au départ, ça serait une douzaine de jours. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a tendance un petit peu à vouloir revenir en arrière ou en tout cas ralentir le mouvement?
Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de ralentir le mouvement. Moi, je pense à tous les artisans qui travaillent dans les ZFE de France aujourd'hui, qui ont des véhicules, qui ont des VUL en particulier, qui ont les 40 000...
Les véhicules utilitaires,
Véhicules utilitaires qui ont 40 000, 50 000 kilomètres, et ils ne roulent pas beaucoup. Bah, ils ne sont pas prêts demain à lâcher 30 000 ou 40 000 euros dans l'achat d'un véhicule électrique pour aller faire, leurs travaux dans les ZFE. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Donc on va passer plutôt dans un premier temps au rétrofit pour faire en sorte de diminuer le coût de d'achat des véhicules. Et puis bon, il y a la dernière formule qui est de dire on achète des vélos cargo. C'est ce que font dans certaines zones certains artisans comme les plombiers par exemple, qui vont dans les centres-villes travailler avec un vélo cargo. Voilà.
Et donc je vous pose bien la toute dernière question de cette interview, qui est également donc la question de notre sondage de ce soir. Est-ce que selon vous, selon Patrick Cholleton, le TRM est-il prêt, ou en tout cas sera fin prêt à cette transition énergétique?
Le TRM a toujours su faire face à tous les défis. Et ça fait 30 ans que je suis dedans, et il va faire face à celui-là également, avec de grosses difficultés, ça c'est certain, mais on représente une très belle filière, et puis je rappelle que 90% des marchandises transportées sont des marchandises transportées par camion.
Et comme le dirait le célèbre adage de la Fédération Nationale des Transports Routiers, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Un grand merci, Patrick Cholleton, d'avoir été avec nous pour ouvrir cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de Solutrans, qui organise les rencontres de la filière qui auront lieu ce jeudi. Merci beaucoup à vous, très belle soirée.
Merci à vous.
Au revoir. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Le transport routier de marchandises est-il prêt pour la transition énergétique? Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Et que pensez-vous, tiens, de l'intelligence artificielle? La fameuse IA, est-ce que cela vous effraie ou pas? Et tiens, pensez-vous que le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui face à l'électrique ou encore à l'hydrogène? Ce dernier qui prend aussi de plus en plus de place. Radio177.fr, quand vous n'êtes pas en train de conduire.
Trois studios, trois copilotes, 4600 km de grand ruban.
Alors Denis qui nous fait juste un coucou ce soir. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les membres de cette radio. Merci pour toute cette semaine et la semaine prochaine. Je vais seulement vous écouter, j'enverrai pas vraiment trop de messages car trop de travaux, c'est très compliqué là pendant 15 jours sur le manteau et moi ça me met dans une panade pas possible. Donc je vais essayer de vous écouter le mieux possible, mais c'est tout ce que je pourrais faire. Bonne émission, bonne continuation, à plus. Mais c'est déjà très sympa Denis de nous envoyer ce très très chouette message. Et vous aussi vous pouvez continuer de nous écrire mais également réagir sur notre thème de ce soir, hein, vous aussi quand vous n'êtes pas en train de conduire radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio et dites-moi ce que vous pensez de la transition énergétique, hein. Tous les 6 mois pour schématiser une nouvelle norme, une nouvelle énergie et puis on apprend que le thermique, bah finalement c'est pas totalement terminé.
L'invité des routiers.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sébastien.
Hervé Rébillon, tu es maître de conférence aux rencontres de la filière, mais aussi à la tête de l'excellent site d'actualité spécialisé TRM 24. Électrique, hydrogène, biocarburant, nous allons y revenir, mais malgré toutes ces alternatives, le moteur thermique peut-être aussi, et encore une solution à la transition énergétique, c'est-à-dire...
Bah, on peut dire que le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui. En fait, ce qu'il faut vraiment préciser au départ, c'est que contrairement à l'automobile, il n'y a pas d'obligation pour les constructeurs, donc ceux qui produisent des poids lourds, les constructeurs de poids lourds, de supprimer le moteur thermique. Quand on regarde bien dans les textes, dans la loi européenne, en fait, Bruxelles n'exclut pas du tout le moteur thermique. La Commission, on va dire, préconise des solutions alternatives au diesel sans l'exclure. Alors, en réalité, les constructeurs misent beaucoup en ce moment, comme sur l'automobile, sur les camions électriques, donc ça existe, hein, il n'y a plus de prototypes, mais c'est vraiment là des véhicules réels qui sont commercialisés en camions électriques. Mais ils misent surtout sur l'électrique pour une raison simple, c'est que les moteurs électriques leur permettent d'atteindre les fameux objectifs CO2 dont vous parliez tout à l'heure, Sébastien, donc imposer aux camions des objectifs qui se durcissent de plus en plus d'ailleurs.
Alors beaucoup de constructeurs de voitures, ceci dit, nous disent depuis quelques mois, nous ne serons pas prêts pour les dates butoirs, hein, qui sont à chaque fois plus réduites. Est-ce que les constructeurs de tracteurs, de camions, seront, selon vous, prêts?
Alors, ils sont prêts comme l'automobile, les véhicules existent, mais en fait, ils pourront pas atteindre les objectifs, notamment les constructeurs de poids lourds, puisque je le disais tout à l'heure, on est jusqu'à 90% de réduction des émissions à partir de 2040 pour les poids lourds. Enfin, on va dans un mur, en fait. C'est-à-dire que elles sont inatteignables, en fait, les objectifs. Donc, comme l'automobile, oui, les constructeurs de poids lourds, faut bien préciser, s'ils n'arrivent pas à atteindre ces objectifs, ils auront de fortes amendes.
Certains constructeurs ont fait le choix de mettre en avant, on le disait, l'électrique, mais l'hydrogène semble enfin, donc on en parlait un petit peu avec Patrick tout à l'heure, mais l'hydrogène semble enfin trouver sa place, mais une arlésienne en même temps. Aujourd'hui, on en est où très concrètement de l'hydrogène?
Alors c'est vrai, on en parle beaucoup un petit peu, nous, dans le milieu poids lourd, comme on en parlait avec l'électrique il y a quelques années. Mais bon, les camions hydrogène se font attendre, surtout les véhicules. Alors il y a des prototypes, il y a des pré-séries qui ont été présentées dernièrement et qui seront présentées également à Solutrans l'année prochaine. Il y a même certains spécialistes qui estiment que l'hydrogène sera adapté aux longues distances en camion, plus qu'à l'automobile d'ailleurs. Et un peu comme l'électrique, je le disais, ils sont en retard. Il y a des projets, des prototypes. La technologie, elle est prête, que ce soit avec un moteur thermique ou avec une pile à combustible. Donc on devra avoir les premières annonces de commercialisation donc pour 2006 pour les poids lourds donc hydrogène.
Alors il y a TAS44 qui nous écrit, alors là pour le coup on va être vraiment sur quelque chose de très spécifique, il nous écrit: salut les amis, c'est TAS44 dans mon métier, les toupies à béton électrique très compliquées, pas assez d'autonomie et chaque béton est différent, donc plus de consommation électrique pour notre métier, le thermique n'est pas prêt de disparaître. Il faut aussi prendre en considération les types de camions, ça devient un vrai casse-tête au bout d'un moment.
Alors non seulement, effectivement, il y a tout l'équipement, donc même si on prend par exemple un véhicule frigo, il y a donc tout l'équipement qui est donc soit au gaz ou même de plus en plus à l'électrique aussi, donc les toupies également, enfin parce que on va dire que tout le monde pense qu'un camion, c'est pas un simple camion, il y a également tout, selon sa spécialisation, l'équipement qui est derrière, qui est souvent à l'électrique et au gaz, oui. Donc ça fait, disons que pour l'instant, Bruxelles ne prend pas en compte tous ces équipements, mais ça va venir, ça va être de plus en plus le tracteur routier, enfin ou le porteur, et il y aura également tout l'équipement, la semi qui sera prise en considération dans le calcul total des objectifs CO2.
Alors Patrick Cholleton nous le disait, hein, l'idée cette année, c'est de mettre en avant l'hydrogène, après avoir mis en avant l'électrique. Patrick Cholleton qui nous parle d'un mix énergétique nécessaire et de ne pas privilégier qu'une seule énergie pour les camions et selon l'autonomie, selon si on veut faire du régional, du national. Est-ce que selon toi, durant ces rencontres de la filière, parmi ces 400 invités, est-ce que beaucoup partagent ce même avis?
Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment un débat sur... On sait qu'on va être sur un mix énergétique, électrique, donc tout ce qui est utilitaire et poids lourd électrique plus pour de l'urbain, pour la ville et également le local, le régional. Et on s'oriente plus vers l'hydrogène, comme je disais tout à l'heure, pour la longue distance. Tout simplement, c'est que, certes, il y a une évolution dans la technologie des batteries, mais on ne pourra jamais faire de grosses batteries pour avoir des autonomies pour faire traverser la France, traverser l'Europe.
Alors, pour finir, notre sondage de ce soir, avec ton avis personnel, selon toi, est-ce que le TRM est-il prêt, fin prêt, à cette transition énergétique? Est-ce que tu aurais répondu oui ou non?
Moi, j'aurais répondu oui, parce que le transport routier, les transporteurs et aussi les conducteurs, je ne dis pas chauffeurs, je dis conducteurs routiers, sont prêts depuis longtemps. Il faut dire que les transporteurs, entre les transports, font du transport écologique depuis des années. Et quand c'était les premiers à proposer du transport combiné, mais puisque les autorités ne suivent pas, l'État, du coup, il y a des projets qui sont avortés avant qu'ils naissent, en fait, en France. Donc maintenant, si le transport routier est prêt, et faut pas oublier une chose, c'est que la norme donc Euro 1 date des années 80, et c'était les camions quand même qui étaient précurseurs en la matière.
Oui, on peut rappeler aussi par la même occasion que souvent beaucoup de dispositifs qui ont été installés sur les voitures ont souvent, Hervé, tu me corrigeras si je me trompe, ont souvent été testés d'abord sur des poids lourds.
Voilà, on a souvent considéré que ça soit aussi bien les équipements, les moteurs, les camions, et ça reste encore aujourd'hui vrai, comme des laboratoires en fait, c'est-à-dire qu'on essaye sur des camions, que ça soit sur circuit ou sur route, des éléments de sécurité ou d'équipement, comme les aides à la conduite par exemple. Ouais.
Eh bien, un très très grand merci, on te retrouve je crois donc durant cette journée des rencontres de la filière pour animer certaines des tables rondes, c'est ça?
Oui, donc il y aura trois, comme le disait tout à l'heure Patrick Cholleton, donc avec des experts et des dirigeants européens qui seront là, donc aussi bien des constructeurs poids lourds, également des énergéticiens, ou encore tous les acteurs en fait de la filière du véhicule industriel seront présents jeudi à Lyon, qui est comme une terre de transport et d'industrie poids lourds, puisqu'il y a donc Renault et il y avait Berlier autrefois. J'aurais juste, Sébastien, apporter une petite anecdote assez... Bon, je le dis souvent, en fait, il ne faut pas oublier que le Lyon a connu les premiers camions électriques dans les années 40, notamment pour la collecte de déchets dans le centre de Lyon. Et en fait, ils ont dû arrêter de développer les camions électriques à cause de quoi ? À cause de l'arrivée du diesel à l'époque.
Un peu de lobbyisme, peut-être ?
Peut-être aussi.
Il faut dire les choses au bout d'un moment.
Oui, voilà, absolument.
Bon, en tout cas, un grand merci Hervé d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, Hervé Rébillon, maître de conférence aux rencontres de la filière, mais aussi à la tête du site d'actualité spécialisé TRM24. Merci beaucoup, très belle soirée. À bientôt.
À bientôt. Merci Sébastien. Tiens, à bientôt.
Au revoir. Et à la suite de vos messages aussi avec Pierre qui nous a écrit bien le bonsoir mon cher Sébastien, bonsoir les copilotes et bonsoir aux invités. Ce soir à bord de mon nouveau camion Ronflex 3.0, je prends la route direction le sud. En coupure sur le Mans, je rigole un peu quand j'entends le monsieur dire que le diesel n'est pas mort. Bien évidemment, je ne pense pas que nous soyons prêts à faire cette transition énergétique quand on voit que les constructeurs s'efforcent à nous parler d'électrique là ou d'hydrogène. l'hydrogène serait une, ou l'hydrogène serait une alternative bien plus réaliste pour notre travail. Ça tombe bien, on vient d'en parler. Pour l'instant, l'hydrogène, c'est un projet alors que l'électrique est déjà là. Alors, faire marche arrière et nous parler d'hydrogène aujourd'hui, il est un peu trop tard, ou pas, Pierre, hein. C'est, ça fait partie de ces idées qui sont mises en avant, par exemple, cette année. On le verra, hein, forcément, dans le futur. Et puis, l'énergie stockée dans ces batteries et ces réservoirs de gaz ne serait-ce pas plus dangereux pour nous conducteurs? Moi, voyager avec une bombe dans le camion, c'est hors de question. J'ai peur que cette émission me mette les nerfs à vif, ne mette les nerfs à vif d'un breton bien connu. Sur ce, bien le bonsoir à tous, la bise à tous, votre Ronflex qui profite de sa coupure pour manger, hashtag miam miam. Bah oui, de toute façon, on avait dit qu'on dédiait, hein, cette émission à Yannick MF. C'est un message qui m'est arrivé dans l'oreillette il y a quelques instants. Voilà, l'infotrafic arrive et puis à suivre la suite de votre émission. On fera une petite pause d'ailleurs dans le prochain quart d'heure.
Vous écoutez, les routiers sont toujours aussi sympas.
Selon vous, le transport routier de marchandises est-il prêt pour la transition énergétique? C'est notre sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus via la bulle bleue Messenger. Et nous poserons également cette question à tous nos invités ce soir. Et puis dans quelques instants, petite pause dans notre thématique. En ce moment, je vous le rappelle, c'est Octobre Rose et se profile aussi dans quelques semaines le Téléthon et des premiers rassemblements s'organise. Nous allons nous en parler juste après. Axel Bauer, éteint la lumière. Non, je n'ai pas fait exprès. Pas du tout. Non. Et qui a éteint la lumière? Éteint la lumière d'Axel Bauer dans une thématique de transition énergétique. Oui, bah, pourquoi pas, c'est une idée. Une petite coquille s'était insérée dans une publication Facebook publiée il y a une dizaine de minutes. La petite coquille a été réparée tout de suite. Merci pour votre vigilance à toutes et tous. D'ailleurs, pourquoi une publication Facebook il y a une dizaine de minutes?
La phare sur...
Le quatrième rassemblement de l'association Les Routiers Solidaires as-tu fait dans la Sarthe. Ce sera donc ce week-end. Salut Tony.
Salut Seb.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir avant qu'on ne reparle de cette quatrième édition. On va reparler un petit peu de toi Tony parce que ça fait un moment qu'on t'a pas eu en ligne. Mais qui est donc Tony? Que fait-il dans la vie Tony?
Que fait-il dans la vie? C'est un blagueur. Non, je déconne. Je suis conducteur routier.
Ouais.
Comme notre cher président qui est au téléphone aujourd'hui.
Ouais. Et tu fais ça depuis combien de temps?
Je vais fêter l'année prochaine ma deuxième session d'FCO, donc 10 ans l'année prochaine.
10 ans, c'est. Et toujours pas. Et jamais de regret sur ton choix de devenir conducteur routier?
Oh non, moi c'était une reconversion, tu sais, donc la famille étant là-dessus, et puis un jour l'opportunité, et paf, allez hop, on y va, et que du bonheur, puis du plaisir à parcourir vraiment le pays complet.
Alors, reconversion, c'est rigolo que tu nous en parles, parce que mercredi dans l'émission, le thème sera justement reconversion dans le métier du TRM. Alors, samedi et dimanche, as-tu fait dans la Sarthe un programme de folie? Raconte-nous.
Eh bien, en fait, oui, c'est la deuxième édition, on va dire, sur le site de Tuffé, parce qu'on a débuté il y a quelques petites années maintenant. On voit pas les années qui défilent. L'année dernière, tu nous as gentiment accueillis aussi en ligne, et c'est vrai qu'on te remercie bien.
Bah, c'est normal, ce sont des événements très importants.
Ben non, mais tu sais, quand tu arrives de très loin, toi, je sais pas, t'es peut-être sur la région parisienne, mais pensez à nous, c'est déjà énorme. Pour nous, qui sommes tout petits, après les 24 heures camion de ce qui vient de se passer, la magie des 24 heures.
Ça sera la magie que tu fais. Ça sera la magie que tu fais.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu plus en festivité, en préparation. On essaye de s'organiser au mieux. Et c'est vrai que là, il va falloir s'attendre à quasiment 60 camions quand même sur le parc.
Ouais.
Et un beau parc d'ailleurs, parce que ça va se passer sur la base de loisirs de Tuffé. Donc c'est vraiment un bel enrobé. C'est très très propre aussi pour les camions et puis les possesseurs des camions, parce qu'ils aiment bien que ce soit propre. Et c'est vrai que sur ces 60 camions, t'as une petite dizaine de camions vraiment décorés. Et à la fois, on n'oublie pas tous ceux qui sont passionnés, mais qui n'ont pas les moyens d'aller mettre, tu sais, des 25, 30, 40 et au-delà. Ouais. Et 40-50 000 euros dans les camions. Et en fait, la porte était ouverte à tout le monde pour venir entre passionnés et passer un week-end sympathique avec bien sûr tout un tas de, d'exposants, parce que c'est vrai qu'on a plus de 10-15 exposants quand même, de toutes sortes, hein, sur les vêtements, de l'alimentation, des photos, voilà, les gens passaient des meilleurs, de la romerie aussi. Donc voilà, c'est vraiment un petit pôle aussi pour les enfants, voilà, tout va être très sympa.
De la romerie pour les petits pour les enfants, c'est ça?
Non, mais non, c'est les parents, les papas, ils
vont
là-bas, tu sais,
puis
les enfants vont
être
de l'autre côté avec les châteaux
gonflables.
Non.
Voilà, jamais quand on conduit, tout ça. Bon, c'était pour la blague. Mais alors, en plus, ce qui est un truc de dingue, alors, moi, j'ai pensé à vous depuis ma Picardie, hein, pour le coup, j'étais pas à Paris quand j'ai pensé à vous, mais je sais déjà qu'il va y avoir un monde de fous, si j'ai bien compris.
Je ne pourrais même pas te dire combien, mais c'est vrai que l'année dernière, on a été énormément surpris parce qu'on nous a dévalisé carrément. Il n'y a pas d'autre mot. On nous a dévalisé et c'est vrai que le soir même, parce qu'on a aussi le repas dansant qui est sur réservation et tout est complet. On en parlait ce matin, il y a 15 jours, on avait la moitié de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 200 convives à table. Nos amis conducteurs routiers, nos familles, les gens du coin. Voilà, c'était ouvert pour tout le monde, et on a une soirée festive où on a notre DJ qui va être là, et donc jusqu'à pas d'heure, la salle est vraiment insonorisée, donc on va vraiment bien déconner, et tout ça pour la bonne cause, parce que
c'est ce que j'allais dire. J'allais y venir justement, parce que tout ça, tout ce programme, tout ce qui est prévu, parce que évidemment, certes, la soirée dansante est faut réserver, mais il faut venir aussi tout le reste de la journée pour voir ces camions et toutes les activités proposées. On le rappelle, c'est donc au profit du Téléthon. Mais pourquoi spécifiquement, tiens, le Téléthon justement?
Bah, tu sais que on pourrait se mettre à en chialer tous ensemble autour, c'est qu'on n'est pas tous gâtés par la santé. Il y a besoin d'argent pour faire avancer la recherche. Et puis bon, bah voilà, on est tout petits, nous. Donc si on peut apporter notre pierre à l'édifice, même moi ça me touche, parce qu'on n'est pas touchés. Si demain j'ai mes enfants qui sont impactés, bah j'aimerais beaucoup qu'on les aide, parce que financièrement je pourrais peut-être payer une cure ou
une opération,
une opération qui coûterait mais des milliers d'euros. Donc on apporte notre petite pierre à l'édifice. Et en fait, comment te dire, c'est de par les dons des personnes, parce qu'on a les camions qui sont là, on a nos copains qui viennent avec leurs camions, on va proposer, comme l'année dernière, ça a cartonné des baptêmes. C'est-à-dire que n'importe qui vient, tu viens mettre une pièce d'un euro, deux euros, le montant que tu veux. On n'est pas là pour dire il faut mettre 5 euros pour faire un baptême. Viens faire un tour avec nous. C'est un petit tour du pays, gentiment, à vitesse réduite, bien sûr. On est obligé, on n'a pas le choix. Il y a des réglementations, la sécurité avant tout. Mais en fait, on apporte les petits minots avec nous dans les camions. Les mamans sont aussi là ou les papas. Et puis, on leur explique. On parle aussi de notre métier parce que c'est important de faire voir un peu ce que vaut notre métier. Parce que bon, on fait la fête du camion. Le lendemain, on nous crache presque dessus parce qu'on ne comprend pas le comportement routier d'un camion. On ne l'apprend pas dans les auto-écoles, je trouve ça dommage, mais tu sais, peut-être notre futur ministre des Transports, je ne le connais même pas encore, tu vois, ce sont peut-être des petites choses à voir avec eux. Mais au-delà de tout ça, c'est du baptême, du partage, on explique notre métier, on apporte de la magie dans les yeux des enfants, parce que c'est ils vous le klaxonnent. Et puis nous, ça nous fout une petite chiale quand même aussi, parce qu'on est content, on nous voit comme ça durant un week-end, et en essayant d'expliquer au mieux notre façon de faire. Et cet argent est reversé. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a approché les 1900 euros.
Eh ben c'est chouette.
C'est petit, mais on a servi à quelque chose.
Non, moi je trouve que c'est
là-dedans, quoi.
Je pense qu'il n'y a pas de petite somme et qu'à chaque fois c'est énorme. Voilà, de réussir chacun avec sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça, exactement. Les routiers solidaires, toujours aussi sympas, et les routiers sont toujours aussi sympas. Eh bien, encore une preuve ce soir. Tiens, avant qu'on se quitte en 10 secondes, juste une question en lien avec notre sujet de ce soir. Que penses-tu, toi, personnellement, de la transition énergétique? Oh là.
Non mais voilà, tu sais, il y a des semaines, on part à faire, va falloir qu'ils nous expliquent comment ils vont trouver le moyen, quand tu as un 44 tonnes roulant, trouver la solution pour parcourir plus de 3000 km par semaine, et en trouvant de quoi se recharger facilement partout. On a déjà le bordel de l'électrique avec les voitures. Je sais pas si t'as vu tout l'été, moi aussi je suis parti dans le sud de France. Bah voilà, ils étaient tous cul à cul avec leur bagnole électrique pendant que moi je mettais de l'essence. Alors moi oui, je suis à l'essence, je suis plus au mazout, mais pour dire quoi, comment ils faisaient. Jean-Bé, ils attendaient leur tour.
Ouais.
Donc je suis désolé, qu'on fasse des belles choses, il n'y a pas de souci, je suis, il faut faire des choses propres. Mmh. Le problème, il n'y a pas l'infrastructure.
Eh ben tiens,
tu m'as différents sujets comme ça.
C'était pas fait exprès. Tu me permets le lien avec la deuxième partie de l'émission parce qu'il va être question de ces infrastructures justement dans le premier quart d'heure de cette émission. En tout cas, un grand merci Tony.
Je vais juste te dire une petite chose. Si tu m'accordes deux petites secondes.
On t'écoute.
On parle d'infrastructure au niveau de l'écologie, c'est très très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, on se donne nous corps viable là dans l'association pour tout ça. Il y a juste un point, moi, qui me chagrine, mais énormément. Tu vois, je suis sur la 75. Je suis dans l'Aveyron. Je veux pas te dire exactement où c'est. Mmh. Tu vois, ce soir, je m'arrête. Je suis heureux de t'avoir au téléphone. Ouais. Il y a juste une chose. C'est est-ce qu'il pourrait y avoir des gens dans la France qui pourraient prendre soin de notre confort routier? Mmh. Notre confort routier, de conducteur routier, c'est quoi exactement? Tu vois, ce soir, moi, c'est camping. C'est-à-dire que la douche ne fonctionne pas.
D'accord.
De quoi nous accueillir convenablement. Je crois qu'il y a des pays, le Canada et autres, il n'y a pas de problème. En France, un camion vous apporte tout. Si vous n'êtes pas consommateur, on n'aura pas de travail. S'il n'y a pas d'usine, on n'aura pas de boulot pour aller l'emmener d'un point A à un point B. Mais s'il vous plaît, les gens de là-haut, je ne sais pas s'il y en a qui sont là à écouter, ayez un peu de respect pour notre confort à nous, conducteurs routiers, puisque bien souvent, on est sur le bord de la route ou sur une aire de repos comme je le suis là, sans avoir le confort de la douche. Demain, vous n'avez pas de brosse à dents, vous n'avez pas de douche. L'hygiène est primordiale pour nous. Des clims de nuit dans nos camions, c'est très bien pour notre nuit. Mais s'il vous plaît, un peu plus de confort pour nous les chauffeurs. C'est pas une caravane qui se déplace pour faire une douche, je suis prêt à payer 4 balles pour lui donner à ce monsieur. Mais le confort pour nous, au-delà d'essayer de faire des choses un peu plus vertes dans nos camions, je conçois qu'il ne faudrait moins polluer, il y a peut-être d'autres pays à taper avant le nôtre, on n'est quand même pas mauvais, mais le confort d'un routier, il est primordial. Vous voulez pas d'accident à l'extérieur. S'il a pris sa douche, qu'il est bien posé, il va être heureux comme tout, il repart le lendemain matin, bam. Mais je te remercie de m'avoir donné au-delà de 2 secondes.
C'était très important et c'était très intéressant.
Mais le confort des conducteurs routiers est primordial.
Et le sujet qui a déjà été évoqué dans cette émission, on le réévoquera évidemment dans cette émission. On fait souvent des...
Tu peux me rappeler tous les soirs si tu veux, c'est
bien. Un grand merci, Tony.
Merci pour d'avoir pensé à nous encore cette année.
Et
nous voir à l'occasion si t'es par là.
Pourquoi pas. Et effectivement, ça ne me tente pas. Si je peux.
Bah, on va te payer à bouffer et on va tranquille, le verre de l'amitié.
Ça marche. Un grand merci à Tony des Routiers Solidaires. Et je rappelle que le 4e rassemblement de l'Assaut Les Routiers Solidaires, c'est donc ce week-end à Tuffé dans la Sarthe. Et vous l'entendez, vous allez passer un excellent moment. Merci beaucoup, Tony. Très belle soirée.
Merci à toi.
À bientôt. Et plein de courage surtout.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Le 10 octobre, ce jeudi, se dérouleront à Lyon les rencontres de la filière organisée par Solutrans. Plus de 400 acteurs du monde de la route, du TRM, se réunissent pour échanger, avancer et transformer sur les sujets du moment, de la sécurité à la transition énergétique, en passant par l'intelligence artificielle. Tiens, êtes-vous favorable à l'IA ou cela vous effraie? Si vous deviez remplacer le gasoil dans votre fidèle destrier, est-ce que ce serait pour de l'électrique, de l'hydrogène, du gaz ou encore du biocarburant? Pour participer à notre sujet, finalement, notre débat de ce soir et qui vous concerne au premier plan, radio177.fr. Quand vous n'êtes pas en train de conduire, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement en studio.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Et selon vous, le transport routier de marchandises est-il prêt pour la transition énergétique? C'est aussi notre sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez, venez nous dire pourquoi. Les amis, vous savez pourquoi j'ai choisi cette chanson ou pas? Non?
Non,
là tout de suite. Alors, comme
je connais, mais le lien tout de suite, là, je ne peux pas vous le sortir.
Léo, non, ça vous parle pas? Léo,
non.
C'est le nom du groupe Electric Light Orchestra.
Ah, oui.
Voilà. Oui, c'est très capillotracté, je vous l'accorde. Voilà, c'est très tiré.
Ah oui,
je
vous ai bien trouvé. Hein.
Oui, mais très tiré, très, très, voilà. Voilà. Allez, salut. Il y a Eric qui nous écrit « Hello, pas grave pour le retard du top horaire, le monsieur était passionné et passionnant. J'ai totalement assumé d'envoyer à 22h03 le top horaire ce soir, même si je vais me faire taper sur les doigts, mais je pense qu'on dira que je pouvais le faire à ce moment-là, exceptionnellement. » Hein, Rémi.
Après, c'est pas trop grave, celui de 22h, c'est plus celui de 23h pour le coup.
Oui, mais là, tout de suite, maintenant, si tu commences à me donner des opérations totalement impossibles à faire, on va pas s'en sortir.
Ouais, hein. T'as le droit à 5 minutes de rade.
C'est gentil, mais je suis pas sûr qu'on va être d'accord en haut.
Allez, entre nous.
Je suis pas bien sûr. Radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message pour réagir à notre thématique de ce soir. Hein. On parlera tout à l'heure d'argence artificielle, bien sûr. Moi, ça va bien en ce moment. Hein. On parlera d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous effraie ou pas? Et pourquoi? Et la transition énergétique est sur toutes les lèvres, mais semble pourtant marquer le pas, notamment sur la longue distance. Qu'en pensez-vous? C'est votre émission, c'est votre débat, ce sont vos avis.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Vos messages.
Alors normalement, c'était le jingle invité qui devait démarrer. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Louis Dupasquier, à la tête de Voltix. Alors on va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Parlez-nous un petit peu de Voltix.
Alors Voltix, qu'est-ce que c'est? Voltix, c'est une nouvelle filiale du groupe Vinci qui va déployer des stations de recharge publiques pour poids lourds électriques, justement pour permettre, comme vous venez de le dire, de lever un des freins dans la transition énergétique du poids lourd. C'est l'infrastructure, évidemment. Si c'est des poids lourds électriques, il va falloir des bornes pour les recharger quand ils parcourent de longues distances. Et c'est intéressant, j'écoutais Tony qui était dans l'Aveyron sur la 75 juste avant, il a parlé d'infrastructure et de confort. Alors le confort, c'était pour son quotidien du moment, l'infrastructure, c'était sa crainte sur l'électrique. Bah, finalement, Voltix, c'est ça, c'est une des réponses au défi de l'électrification des poids lourds pour la longue distance, c'est d'installer des stations de recharge publiques pour les poids lourds électriques le long des principaux axes routiers pour justement permettre à ces poids lourds électriques de se recharger pendant les temps de pause à chaque fois qu'ils en auront besoin. Et puis le confort, c'est important, hein, le confort en électrique, tous les routiers qui ont déjà testé un poids lourd électrique, ils sont pas encore très nombreux parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on sent tout de suite la différence avec un camion diesel, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, donc le confort est aussi un des sujets intéressants de la transition de l'électrification des poids lourds qu'il faut pas oublier.
Alors il y a un autre sujet très important, et ça je sais que c'est un vrai enjeu derrière, sur lequel nos auditrices et auditeurs au volant de leur camion s'inquiètent, parce qu'on dit ce sont les places de parking poids lourds qui sont déjà manquantes, aussi bien sur le réseau concédé que non concédé, d'ailleurs on en parlait. Ces places de parking poids lourds pour faire des stations de recharge électrique, quid des places de parking poids lourds pour le reste de la flotte?
Alors c'est une très bonne question, c'est un des enjeux effectivement de l'électrification des poids lourds et de l'installation de stations de recharge. On a fait une étude avec Enedis, Total Energy et les principaux constructeurs de poids lourds avec Vinci Autoroutes il y a quelques mois, dans laquelle on a justement montré qu'un des enjeux c'était justement le foncier, les places disponibles. Alors on sait qu'il y a des réseaux sur lesquels il y a vraiment des gros déficits de places poids lourds aujourd'hui, et donc il ne faut pas que évidemment l'installation de bornes vienne aggraver ces déficits, et pour ça il y a une des ressources possibles, c'est d'agrandir la taille des parkings poids lourds ou carrément de créer de nouveaux parkings poids lourds dédiés à la recharge des véhicules électriques. C'est notamment ce qu'on fait chez Voltix, on s'attache à créer de nouvelles places poids lourds qui sont équipées de bornes et qui viennent justement en complément des places existantes. Mais il faudra aussi évidemment progressivement, avec la mutation de la flotte de poids lourds électriques, convertir petit à petit les places existantes en places avec des bornes, mais il faudra aussi en créer de nouvelles, ça c'est tout à fait évident.
Donc voilà, il y a forcément un projet de peut-être d'augmenter certaines aires. On va continuer d'en parler, je vous garde avec moi Louis Dupasquier, on va vous retrouver juste après l'infotrafic pour continuer de parler de ces besoins en termes de stations de recharge, parce qu'il y a un vrai défi et de vrais enjeux, et vous serez complété dans quelques minutes par le directeur mobilité électrique de chez Enedis qui sera avec nous pour nous expliquer comment on fait tout simplement pour amener cette électricité. Est-ce qu'il nous faudra 3 centrales nucléaires pour une station de recharge? C'est ce que nous verrons dans un instant. Pour l'instant, c'est le trafic.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Alors, toujours en compagnie de Louis Dupasquier de chez Voltix, nouvelle filiale Vinci Autoroutes, pour se préoccuper notamment des stations de recharge. Vous nous l'avez dit avant le point trafic, Louis, il faudra de toute façon récupérer, comme vous l'exprimez, du foncier pour ces fameuses places parking poids lourds. Est-ce qu'on peut dire que les aires de repos également seront concernées?
Alors oui, effectivement, le principe, ça va quand même être que pour recharger les poids lourds électriques pendant les pauses des chauffeurs, bah, il faudra installer des bornes partout là où il y a des chauffeurs qui s'arrêtent, donc sur les aires de service, sur les grands parkings poids lourds, mais aussi sur les aires de repos. Il en faudra un peu partout, et j'irai même plus loin, il en faudra aussi en dehors du réseau autoroutier, puisqu'il faudra aussi équiper bah, les abords des zones logistiques, les endroits où il y a les points d'arrivée des poids lourds et où ils stationnent aussi également parfois. Donc c'est en fait un peu l'ensemble des axes routiers, le long de l'ensemble des axes routiers qu'il faudra mailler le territoire de stations de recharge pour les poids lourds électriques. C'est un des gros défis de la transition énergétique du poids lourd.
Alors il y a Emmanuel qui nous a écrit, salut Sébastien, c'est les copilotes. Pour moi les véhicules électriques, pas encore assez de recul sur le sujet, surtout comment le recyclage quand ils sont en fin de vie. Alors là on est sur un tout autre sujet. Et il nous dit, il n'y a pas encore assez de stations de recharge. Et là je pense qu'il y a des limites. Alors justement concrètement, quel est le constat en 2024 sur les besoins en stations de recharge?
Alors aujourd'hui, le besoin est quasiment nul, puisqu'il n'y a quasiment pas de poids lourds électriques en circulation. En gros, il y a à peu près 1000 poids lourds électriques en circulation en France. Donc on est vraiment au tout début de l'histoire, mais c'est un problème de poule et d'œuf. Si on attend qu'il y ait des stations de recharge pour qu'il y ait des poids lourds électriques, bah, il n'y aura jamais de poids lourds électriques. Et donc le seul moyen de faire, c'est d'ailleurs l'objectif de Voltix, c'est qu'il faut commencer par l'infrastructure, il faut déployer des stations de recharge, et ça va donner la confiance aux transporteurs et aux routiers pour passer à l'électrique et pour pouvoir s'arrêter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment au tout début de l'histoire. C'est comme il y a quelques années sur les voitures électriques, il n'y a quasiment aucune station dédiée pour les poids lourds, et on sait que les poids lourds ont des besoins spécifiques, bah, ne serait-ce que la taille des places, mais aussi la puissance des bornes pour recharger les batteries, qui seront bien plus importantes. Et donc ça, c'est vraiment le début de l'histoire, mais c'est le rôle de Voltix justement de commencer par l'infrastructure et d'offrir cette infrastructure pour que ça suscite ensuite la demande en camion.
Des stations de recharge, et pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'électricité dedans. Là, a priori, je pense que tout le monde est d'accord avec moi.
Ça, on est d'accord.
Voilà, bonsoir Pierre de Firmas.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur mobilité électrique chez Enedis. Je vous garde encore quelques instants, Louis Dupesquier. Pierre, une date est posée, c'est 2035. Il nous faudra pouvoir recharger un certain nombre de poids lourds électriques. Au moins 30% de la flotte existante nationale aujourd'hui. Un véritable défi pour vous, pour Enedis.
C'est un défi, c'est vrai, mais justement en s'y prenant à temps, c'est-à-dire maintenant, et en anticipant, hein, comme le disait Louis, on est au début de l'histoire, je pense qu'on prend les choses comme il faut, collectivement, pour anticiper les besoins qu'il y aura en recharge. Hein. Pour ça, on a fait des études, on a modélisé le trafic, et on a déterminé, avec une assez grande précision, les besoins en électricité, donc en puissance, hein, on parle de mégawatts, qu'il faudra sur ces aires de service, sur ces aires de repos, pour assurer ces besoins de recharge des poids lourds à cet horizon 2035. Donc, le maître mot, c'est d'anticiper. Hein. Si on s'y prend suffisamment tôt, alors on repère les endroits et les moments où il faudra conduire des travaux d'envergure sur le réseau pour renforcer un poste source, un poste de transformation, pour peut-être en créer un nouveau. Et du coup, on sera à même de déclencher ces travaux et de les conduire en temps et en heure pour que les usagers aient bien, comme vous l'avez dit, l'électricité nécessaire.
Alors justement, on va revenir dans un instant sur tout ce qui est temps de recharge, mais pour qu'on soit concret, et je vais grossir le trait et exagérer, évidemment, est-ce qu'il nous faudra 3 centrales nucléaires pour une station de recharge poids lourd?
Alors non, rassurez-vous, heureusement, justement, là, cette étude qu'on a faite, alors c'est sur une partie hein, seulement, mais il faut bien faire commencer par quelque part. Donc on a regardé d'ailleurs avec Vinci Autoroute, avec d'autres partenaires, dont des constructeurs, les 6 principaux constructeurs de poids lourds en Europe. On a regardé, on a modélisé le trafic justement pour déterminer à cet horizon 2035 de combien d'énergie on aurait besoin sur ces aires de service pour la recharge des poids lourds et de combien aussi, parce que c'est vraiment ça qui est dimensionnant pour le système électrique, hein, de combien de puissance maximum sur chaque aire de service on aurait besoin. Et je dirais la bonne nouvelle hein, pour vous rassurer, c'est que quand on regarde de façon combinée les besoins en recharge des véhicules légers sur ces les mêmes aires d'autoroute et les besoins qu'on aura pour le transport de marchandises et donc des véhicules lourds, des camions, on observe cette bonne nouvelle, c'est que ça se combine plutôt favorablement. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple de l'aire de service de Montélimar, qui est une des principales, qui est très fréquentée. Bah, quand on va dimensionner en électricité le niveau de puissance de raccordement pour faire face au pic d'appel de puissance maximum qui va se produire pour les véhicules légers lors du week-end chassé croisé du début du mois d'août, on couvrira avec cette puissance-là le pic qui se produira à un autre moment, pas à la même saison d'ailleurs, en semaine et pas en week-end, de la puissance nécessaire pour recharger les poids lourds sur cette même aire de service. Donc si on arrive à mutualiser la puissance qu'on va amener sur l'aire de service pour les deux usages...
En gros, ça va se partager finalement, ça va se partager selon...
Voilà, on appelle ça le foisonnement, ça veut dire que ça se goupille bien, si vous voulez, et on ne va pas empiler les pics de puissance, mais ils ne se produisent pas au même moment.
D'accord.
Donc, quand on a regardé ces besoins-là, une aire de service, la principale, là, par exemple, Montélimar, ça sera de l'ordre de 40 mégawatts, il faudra 20 mégawatts de chaque côté, et ça... Ça ne correspond pas du tout à 4 centrales nucléaires, ni même à une.
C'est rassurant. C'est rassurant. Il y a Emmanuel qui nous pose une question, parce que justement, je voulais compléter avec sa question. Il nous parle des temps de recharge. Est-ce que justement, nous avons déjà une idée du temps qu'il faudra pour recharger un poids lourd électrique? Est-ce que c'est quelque chose que nous savons? Je vais peut-être me tourner vers Louis Dupasquier. Je ne sais pas si c'est Louis ou vous, Pierre, qui pouvez me répondre. Louis Dupasquier, est-ce qu'on a déjà une petite idée là-dessus?
Ah oui, on a une idée très précise, effectivement. En fait, les constructeurs de poids lourds, quand ils ont décidé de passer à l'électrique pour leur vente future, enfin pour une bonne partie, une part croissante de leur vente future, en fait, ils se sont calqués sur le temps de pause réglementaire des chauffeurs routiers. On va le simplifier, mais c'est en gros soit 45 minutes, enfin c'est 45 minutes toutes les 4h30, avec la possibilité de la découper en 15 et 30 minutes. Et donc en fait, on a des temps de pause qui vont faire 15, 30, 45 minutes, et pendant lesquels il faut récupérer jusqu'à 4h30 d'autonomie. Donc si on prend le cas le plus extrême, c'est-à-dire un routier qui ne fait que de la longue distance et qui roule toute la journée, et qui fait que des sessions de 4h30 par 4h30 de conduite, lui, il a besoin de recharger 4h30 d'autonomie en 45 minutes. Et donc là, pour faire ça, il faut une borne qui a une puissance entre 800 kW et 1 MW à peu près, en fonction de la consommation du véhicule. Mais donc, c'est des bornes qui sont en train d'être développées aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait faire avec des bornes qui sont deux fois moins puissantes que ça. Mais dès l'année prochaine, on saura installer et exploiter de façon commerciale des bornes qui feront jusqu'à 1 MW. On appelle ça le MW Charging System. Donc, c'est un nouveau connecteur, d'ailleurs. Ce sera une nouvelle prise. Mais oui, effectivement, on sait le faire en un temps très réduit, y compris pour vraiment le cas le plus compliqué où il faut récupérer un plein quasiment entier de batterie pendant 45 minutes.
Merci pour cette précision. Dernière question à Pierre de Firmas. Les acteurs de l'économie dans son ensemble sont de plus en plus à l'électrique. Et là, je ne parle pas que du TRM, on parle de l'industrie. On a parlé de Lyon tout à l'heure qui concentre aussi de nombreuses entreprises. Est-ce que la France est-elle souveraine totalement en électricité? Est-ce que le sera totalement pour emmagasiner cette demande importante d'électricité?
Alors, je précise qu'Enedy, c'est le distributeur, on n'est pas le producteur.
Oui, bien sûr.
On n'est pas producteur d'électricité, néanmoins j'ai une petite idée sur la question quand même. Premièrement, une fois qu'on a passé les moments difficiles qu'on a connus l'hiver 2021-22, là, avec la crise de l'énergie, on voit bien qu'on a un parc en France de production qui suffit largement à adresser les besoins à la demande d'électricité, puisque même on est en règle générale exportateur net assez largement d'électricité. Et puis quand on se projette à l'horizon 2035, on voit qu'il y aura une augmentation de la consommation d'électricité significative en France, et c'est une très bonne chose, parce que ça voudra dire qu'on aura réussi à décarboner l'économie, comme vous le dites, au bon rythme. Et donc on parle de 150 TWh en plus, aujourd'hui on est à 400 et quelques TWh de demande, et sur ces 150 TWh, la moitié proviendront de la consommation de ce qu'on appelle la mobilité électrique, c'est-à-dire la décarbonation, l'électrification du secteur du transport. Et bien, dans le même temps, on aura développé des nouveaux moyens de production renouvelables, d'une part, mais aussi nucléaire, hein, puisque vous savez qu'il y a une politique énergétique en France qui prévoit la construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour prendre le relais de ceux qui arriveront en fin de vie.
Eh bien, grand merci Pierre de Firmas d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur mobilité électrique chez Enedis. Très belle soirée à vous.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Louis Dupasquier, une toute dernière chose, une réaction suite à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le besoin de foncier et notamment pour la création de nouvelles places de parking poids lourds. Yannick s'inquiète de la destruction des terres agricoles. Il estime qu'on marche sur la tête, mais j'imagine, Louis Dupasquier, alors là je n'y connais absolument rien, c'est vous qui allez pouvoir me répondre, mais j'imagine qu'on ne fait absolument pas n'importe quoi lorsqu'on veut récupérer du foncier pour créer des extensions d'aires de service ou d'aires de repos.
Alors oui, évidemment, on va dire pour ce qui est de l'autoroute, là ça va être un peu un cas spécifique, ça dépend si sur l'aire telle qu'elle existe aujourd'hui, il y a des réserves foncières à côté. Alors ça c'est rarement c'est pas des terres agricoles, hein. C'est vraiment, on parle des zones qui sont déjà sur l'aire existante et sur lesquelles on peut augmenter la taille de stations. Et après par contre pour les stations qui seraient en dehors de l'autoroute, qui seraient dans des zones logistiques ou etc. Typiquement chez Voltix, on ne regarde que des terrains qui sont déjà constructibles, c'est-à-dire qui sont à destination et à vocation pour y construire soit c'est des parkings existants, soit c'est des parkings à créer. Mais évidemment, en aucun cas, on ne va aller artificialiser des terres agricoles pour faire de la recharge pour poids lourds électriques. Ça n'aurait pas de sens.
Voilà, ça n'aurait pas de sens, et ce que nous disait Yannick d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais vous faire réagir, savoir comment tout cela fonctionnait. Eh bien, Louis Dupasquier, je vous remercie beaucoup d'être resté avec nous aussi longtemps finalement, à la tête de Voltix, filiale de Vinci Autoroute, excusez-moi, je vais y arriver, parce que j'avais Enedis, Voltix, je commençais à tout mélanger. Un grand merci à vous et on vous souhaite très belle soirée. Au revoir.
Au revoir.
Trois studios, trois copilotes, 4600 km de grand ruban.
Et vous alors, qu'en pensez-vous? Le transport routier de marchandises est-il prêt pour la transition énergétique? Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas sur notre site internet radio177.fr. Et dites-moi ce que vous pensez de la transition énergétique tous les 6 mois pour schématiser une nouvelle norme, une nouvelle énergie. Et puis on apprend que le thermique, c'est pas totalement fini. Et dans le futur, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre toute une place dans TRM?
L'invité des routiers.
Est-ce que Rémi et Léo reconnaissent ce qu'il y a derrière moi? Ou pas?
Toujours pas. On dirait le dernier des Mohicans, mais...
Non, pas vraiment.
Peut-être
non.
Pas à ce stade-là, quand même.
Non. Terminator, ça vous dit rien?
Ah non.
Oula, non. Ouais. Dans Terminator, non?
Science-fiction, j'ai très peu pour moi.
Ah ouais, mais alors pourtant, moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'entends parler d'intelligence artificielle, moi j'ai Skynet, Terminator en tête, voilà, tout ça. Bon alors évidemment...
Parce que ça vous fait peur, vous?
Je sais pas, et justement c'est notre invité qui va nous rassurer, je pense. Je sais que c'est improbable, hein, quoique, mais bon, nous allons démêler le vrai du faux sur l'IA avec notre nouvel invité, vous inquiétez pas, c'est pas Arnold Schwarzenegger, mais je ne sais pas, je l'ai pas encore rencontré. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Est-ce que vous pensiez arriver sur la musique de Terminator ce soir?
Écoutez, c'est vrai que ça fait partie des poncifs et des images qu'on véhicule tout socialement, mais je pense que l'IA est un peu plus loin de ça.
Voilà. Alors, vous êtes président de AI Cargo Foundation. Excusez-moi, je ne le dis pas en anglais parce que j'ai un très mauvais accent anglais. Intelligence artificielle pour le transport et la logistique. D'abord, une question générique, Guillaume, en quelques mots. Si vous deviez nous donner une définition de l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on exactement?
Alors, une petite boutade, c'est très peu intelligent et très artificiel.
Donc, effectivement.
Mais fondamentalement, je le crois, c'est effectivement basé sur deux grandes choses. L'un, des mathématiques, donc ça demande effectivement de travailler des mathématiques assez complexes, et de l'autre, de l'informatique, et là on se rapproche un petit peu plus de l'idée qu'on peut avoir d'un ordinateur surpuissant. Mais fondamentalement, c'est ni plus ni moins que les logiciels que vous avez à portée de main dans votre téléphone, sauf qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils ont été développés pour être capables de on va dire, non pas prédire, ça n'a rien de magique, mais de découvrir dans toutes les données qu'il traite des informations pour lesquelles on ne les a pas pré-entraînées pour ça.
Alors c'est dommage parce que je m'attendais à avoir les chiffres du loto à la fin de cette interview, donc j'ai bien compris que je ne pourrais pas les avoir. Mais beaucoup plus sérieusement, dans le transport routier de marchandises, on avait des messages tout à l'heure des auditeurs qui s'inquiétaient. L'intelligence artificielle, est-ce que ça serait pour remplacer les conducteurs routiers? Parce qu'on parle beaucoup d'autonome, alors, mais on est vraiment au milieu de ça dans le TRM pour l'instant. Mais en fait, non, je pense pas à l'intelligence artificielle, ça va au-delà de ça, c'est pour beaucoup d'autres choses. C'est quoi le principe dans le TRM?
Alors, effectivement, c'est une technologie qui a cette différence de ce qu'on a vécu avec l'arrivée de l'Internet, tous les uns et les autres, hein. C'est qu'elle a une capacité de s'appliquer à bien des domaines de notre quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels, et donc ça a des capacités d'application assez vastes. En fait, il y a deux grands domaines auxquels l'intelligence artificielle est assez efficace. La première, c'est traiter des grandes masses d'informations. Donc, ça part déjà du principe de base qu'on a des informations, donc des données, hein, donc des informations numériques, qu'elles soient des textes ou des chiffres, mais en grande quantité. Et à partir de ces données, soit de prédire, donc d'anticiper, de prédire, soit de reproduire, et c'est ce que tout le monde a vécu, ou pour ceux qui ont eu la curiosité de les faire, d'aller voir vers le mot magique là, ou le mot que tout le monde entend, ChatGPT, qui ne fabrique pas de nouveaux textes, mais il est capable en fait de reproduire des choses relativement nouvelles par rapport à des choses qu'il a appris avant.
D'accord. Alors, moi, j'ai quelques réactions. Vous doutez bien sur l'intelligence artificielle, hein, parce que moi-même, je découvre en même temps que nos auditeurs, il y a Eve qui nous a écrit « Bonsoir à tous pour les nouvelles motorisations de l'avenir. Leurs coûts sont encore astronomiques, peu endurantes et encore pas très fiables. De plus, on n'a pas encore résolu le problème des incendies de véhicules électriques. » Ça, c'est vrai, on avait eu l'occasion d'en parler dans cette émission, mais les pompiers y travaillent énormément. Ceci dit, Colton dit « Quant à l'IA, elle ne servira d'abord qu'à policier, parce que je peux pas dire l'autre mot, davantage les chauffeurs en ajoutant des paramètres de contrôle et donc faire sauter les garanties en cas d'usage non préconisé. Est-ce que vraiment on veut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux contrôler ce qui se passe sur la route?
Alors, on peut faire cette analogie avec une vision assez catastrophique d'une société à la chinoise. Alors, sans juger les autres sociétés, mais effectivement, une société dans laquelle tout le monde contrôle tout le monde, et peut-être pas celle que l'on souhaite, en tout cas, c'est pas celle que nous, personnellement, je souhaite. Effectivement, l'IA est un outil de plus pour contrôler les sociétés, mais ça n'est pas fondamentalement, en soi, l'essence même du système. L'IA est un outil comme les autres.
Je me permets de rajouter, parce qu'il ajoute, Jean-Paul qui nous a écrit, en fait, sauf si l'ordinateur est connecté au capteur du poids transporté, de sa répartition, de la topographie, du sens du vent, du taux d'hydrométrie pour le filtre à air, etc., afin d'optimiser au maximum le rendement et l'efficacité. Mais il nous dit, il ne faut pas rêver. Mais globalement, on travaille déjà dessus, avec peut-être l'intelligence artificielle.
Pour le coup, effectivement, quand on a une grande masse de données qui viennent des capteurs, qui viennent du moteur, qui viennent du véhicule, qui viennent de la route elle-même, ou bien d'informations comme quel est le plan de transport à réaliser, là, l'IA peut apporter une aide utile, qui est de traiter cette information en temps réel et d'apporter une information utile à chacun des acteurs qui doivent la traiter, que ce soit le chauffeur dans l'aide à la conduite, ou que ce soit celui qui va organiser la tournée pour améliorer l'efficacité globale du processus.
Guillaume Desvaux, est-ce qu'on dirait que pour le moment l'IA on est au balbutiement dans le transport et la logistique, ou alors on est vraiment entré dedans?
Non, on est vraiment au balbutiement et dans tous les domaines en fait. Le transport et la logistique, comme les autres secteurs, et c'est un domaine dans lequel ces technologies s'appliquent bien. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des organisations humaines et le mot important est humaine, où effectivement ça fait intervenir beaucoup de personnes. Et quand il faut améliorer l'efficacité générale, effectivement ces traitements aident à prendre des décisions plus facilement.
Et on va y venir à cette question, je sais que c'est un peu la crainte de nos auditeurs, parce que vous nous parlez d'humains, mais les camions ont besoin de ces humains pour les conduire, pour qu'ils arrivent à destination, et puis avoir un contact avec le client. Est-ce que ce fameux camion autonome, qui n'est pas pour demain, et ça on le sait très bien, est-ce que vraiment ce camion autonome pourra voir le jour ?
Technologiquement, les technologies sont là et elles sont largement applicables, notamment à des tracteurs poids lourds, puisque ce sont des véhicules qui ont des trajets bien déterminés et qui ont une certaine valeur. Donc appliquer ces technologies dans ce cadre-là, c'est évidemment tout à fait envisageable. Maintenant, ça restera une aide supplémentaire.
Ça ne pourra pas remplacer le conducteur routier qui devra rester avec le camion.
Alors, c'est plus une question de législation que de technologie. On peut tout à fait aujourd'hui, on l'a démontré, remplacer dans des conditions de routières sûres le conducteur dans sa fonction ou le chauffeur dans sa fonction. Maintenant, ça n'est pas applicable dans des conditions où le bon sens, le facteur, l'expérience humaine reste très supérieur à la capacité de la machine. Néanmoins, effectivement, ces technologies, dans des conditions prédites à l'avance, par exemple un grand parcours, effectivement, c'est plutôt une assistance qu'un remplacement.
D'accord. Eh bien, écoutez, on aura, je pense, le plaisir de vous recevoir à nouveau, Guillaume Desvaux, pour voir un petit peu l'évolution de cette intelligence artificielle dans le transport et la logistique. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes président de l'AI Cargo Foundation, intelligence artificielle pour le transport et la logistique, et vous serez donc aux journées de la filière ce jeudi à Lyon. Ces rencontres de la filière, pardonnez-moi. Très belle soirée à vous.
Bien, bonne soirée à tous et bonne route à ceux qui sont sur la route.
Merci beaucoup.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Eh oui, est-ce que vous pensez que le TRM est prêt pour la transition énergétique ? Alors, est-ce que j'ai envie de dire surprise ou sans surprise ? Vous êtes 71,9% à nous dire que non, le TRM n'est pas encore prêt pour cette transition énergétique, et certainement pour toutes les différentes raisons dont on a parlé tout au long de cette émission. D'autres témoignages, hein. Alors Gaëtan, lui, il n'est pas d'accord avec certains d'entre vous, il nous a écrit « Bonsoir à tous, et à vous le staff, bien sûr. Sur ce sujet, je trouve que c'est juste un cap à passer. L'intelligence artificielle et les camions électriques doivent suivre l'évolution. Il y aurait peut-être moins d'accidents, mauvaise foi de certains conducteurs également. » Alors, il parle globalement, voiture, camion, je pense, que l'on est bridé psychologiquement et on ne veut pas regarder l'horizon. Il nous dit, j'en profite pour envoyer un petit coucou à Jérôme qui gère l'entreprise Bulto Service. Comme cette émission a été dédiée à Yannick, j'en profite. Oui, Jérôme, c'est moi. Maintenant, je vais me tourner vers la jeunesse de cette émission aussi, parce qu'il y a des jeunes qui nous ont écrit, évidemment, mais la jeunesse en studio, parce que moi, mon avis, elle va pas coller avec la leur, mais Rémi, vous, c'est quoi votre position sur la transition énergétique ? Je suis bien curieux de le savoir.
Alors moi, pour mon exemple précis, l'été dernier, j'ai voulu changer de voiture, et je me suis renseigné sur l'électrique. Et on m'a tout de suite dit non, ça vaut pas le coup, c'est pas encore viable.
Ah, c'est un concessionnaire qui vous a dit ça ?
Ouais.
Ah ouais,
ouais. Qui vendait de l'électrique.
Oui, je l'ai pas vu venir celle-là, je t'avoue.
Ah ouais, si. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, moi je m'y connais encore pas trop sur l'électricité et tout ça. Donc c'est pour ça que je me renseigne beaucoup et on m'a vraiment fait comprendre qu'en fait non, c'était
pas encore. La seule chose que je dois vous dire à savoir sur la voiture électrique, c'est qu'il faut pas mettre les doigts dans la prise.
Voilà. Oui, ça on me l'a dit aussi, mais faites même me le redire. Okay. Je suis resté sur le thermique.
D'accord.
On m'a dit c'est encore actuellement ce qu'il y a de mieux à faire en termes notamment de réparation. Il y a moins de risques.
Les concessionnaires s'inquiètent de pas vendre assez d'électrique, mais ils les déconseillent en même temps. Là, c'est un concept que je j'ai pas bien.
J'étais peut-être un cas particulier.
Ouais.
C'est
Léo,
connaissez bien. Donc.
Léo, la transition énergétique, vous, ça vous dit quoi ?
Bah, alors ça va pas être forcément politiquement correct, mais bon, moi je suis pas forcément pour une transition à l'électrique. En tout cas, je pense pas que ce soit la solution. Bien sûr, il faut sortir du thermique, mais l'électrique, ça repousse le problème, quoi, parce que tout simplement, on a des batteries après qui vont polluer et qui vont rester des milliers d'années à polluer sur notre planète.
Donc finalement, le mix énergétique, quoi.
J'en sais rien. Franchement, j'ai l'impression que l'électrique, bah, c'est un peu comme le diesel il y a 20-30 ans, où on était obligé d'acheter diesel, sinon on était has-been ringard.
Ah,
et
oui.
Dans 20-30 on va nous dire eh ben, l'électrique à la poubelle. Ouais. Donc bon, voilà, je sais pas vraiment quoi en penser. Bah, c'est vrai que peut-être d'autres énergies, on en a parlé, qui pourraient être plus intéressantes et peut-être moins polluantes sur le long terme ou sur le moyen terme. Mais c'est vrai que l'électrique, je pense, sur le long terme, ça peut être une grosse catastrophe.
Entre nous, soit dit, je pense qu'on a quelqu'un qu'on connaît tous les trois qui a l'idée.
Oui, la solution.
Non.
Le berlier bleu à pédales. Là.
Voilà, d'Hervé Améry. On devrait tous rouler avec des pédales. Et puis voilà, hein, comme ça.
Rouler au maïs.
Mais ça ferait du pop-corn à la fin. Donc voilà.
Entre nous, pour la petite anecdote et pour le jeu de mots, Hervé Améry avec son berlier est une bonne descente. Hein, mais pour la montée, c'est beaucoup plus compliqué.
Joker. Hervé, je ne suis pas responsable. Je sais que tu es à l'écoute. Ah, mais... Tu te débrouilles. Alors, avec Rémi. Voilà.
Par contre, pour rebondir sur ce que disait Léo sur l'électrique. Oui, actuellement, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire des batteries, mais peut-être que d'ici 10-15 ans, on aura la solution miracle pour les recycler, tout ça. Donc, peut-être qu'à voir sur le plus long terme encore, c'est la solution viable. Mais
c'est ce que nous disait Louis Dupasquier tout à l'heure de chez Voltix, tout à l'heure. Hein, il nous disait, de toute façon, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, et il ne faut pas attendre qu'on en ait besoin pour le faire, parce qu'on n'en aura jamais besoin sinon. Donc, peut-être, effectivement, voir un petit peu dans le temps, mais tout cela reste un sujet encore bel et bien très très vaste. Thierry nous a écrit bonsoir l'équipe, si l'IA pouvait prévoir des voies 30 km/h toujours à droite pour les poids lourds et non à gauche comme à Arles ou Saint-Martin-de-Crau, ou encore ouvrir la barrière 30 km/h sans qu'on ait besoin de s'arrêter comme à l'instant Toulouse-Muret, ça serait fantastique. Bonne soirée, prudence à tous, début de semaine Nice-Bilbao pour ma part, mais je referai remonter l'info, mon cher Thierry, car je remonte toutes les infos que vous m'envoyez. Comme je savais que ça serait que là, je ne pourrais pas le réutiliser, je voulais l'utiliser une dernière fois.
Mais alors, vous savez, Sébastien, que pour l'IA, en l'occurrence, en studio, ici à Veden, donc à côté d'Avignon, on arrive à faire parler Marielle Tillier en japonais.
Ah,
c'est tellement transparent, c'est génial.
Vous me faites très très peur.
Oui, mais figurez-vous que moi, du coup, l'IA, ça me fait peur, parce que je me dis que notre métier, en fait, il n'est pas viable.
Oui.
On nous remplace par une IA et ça y est, terminé, l'infotrafic avec des robots.
Ouais, mais on pourra plus. L'IA dira plus de bêtises. Ouais,
oui.
On pourra plus dire des bêtises. Bah voilà. Donc,
ce sera trop parfait, ouais.
Voilà, c'est ça. Ce sera trop. Linéaire. Ouais. Il y a Phil qui nous a écrit pour la toute première fois ce soir. D'ailleurs, je viens de voir son message à l'instant même. Bonsoir Sebamax et toutes les équipes et auditeurs du 107.7. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous, les Européens, on nous impose toutes ces nouvelles énergies, alors qu'en termes de pollution, les poids lourds actuels émettent peu de CO2. Et quand on voit nos voisins outre-Atlantique, canadiens et américains, ils ont des camions bien plus polluants que nous, avec des grosses pipes qui crachent bien noir, et on ne leur impose rien, contrairement à nous, les Européens. Sans parler des pays des pays en voie de développement, comme si nous autres, les petits Français, allons sauver le monde. Bonne route à toutes et tous. Bah ça, c'est pour le coup la différence, c'est que nous, bah il y a l'Union européenne, donc c'est pour tout le monde pareil. Et puis il y a l'Amérique du Nord qui est pas dans l'Union européenne, ou alors il y a eu un glissement de terrain durant la nuit. Voilà. Mais voilà.
Sacré glissement.
Oui, mais par contre, c'est vrai que on peut dire que les camions américains, ils envoient. Hein. Ça, on peut pas nier le contraire. Effectivement, Phil, on peut être que d'accord sur ce point-là. Oh, j'ai oublié le message de Thierry aussi qui nous a écrit tout à l'heure. Bonsoir, Sebamax. Non, pas prêt du tout pour les longues distances, les 212 QRO à tous les routiers de la nuit. Il a bien raison, ton interlocuteur Tony Sebamax. Oui, Tony, qu'on a entendu tout à l'heure aux alentours de 22h. En tout cas, un grand merci à toutes et tous pour votre participation. On a essayé de faire un petit peu avancer le sujet, car c'est un sujet qui continuera à évoluer, que nous allons suivre avec vous, évidemment. Les rencontres de la filière par Solutrans, c'est ce 10 octobre à Lyon. Je vais remercier Marie-Dominique Berthaud, Stéphanie Dionnet, Perrine Martin et Raphaël Burel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci Rémi et Léo, très belle soirée à vous deux.
Merci beaucoup Sébastien, bonne soirée à toutes et à tous, et soyez prudents toujours. Hein.
Bonsoir Léo.
À bientôt Sébastien, à toutes et tous, et à la prochaine dans l'émission.
Avec grand plaisir. Demain, émission avec notre partenaire France Route. Deux sujets, les accidents du travail et tout autre chose. Une bande dessinée sur les liens entre un conducteur routier et son fils, ce sera au programme. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, et la prudence ou la bonne nuit. Je vous dis à demain, 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88, soit 212, hashtag respectons les routiers.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi, 21h-23h sur Radio Vinci Autoroute.